peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Comment une révolution advient-elle? Des milliers de pages ont été noircies pour tenter de comprendre les mécanismes qui produisent les circonstances aboutissant au changement du cours de l'histoire. Elles peinent cependant à saisir ce qui est le cœur de l'événement. Car la révolution, c'est d'abord une aventure humaine. Il y a un siècle, les manifestations spontanées des ouvrières de Petrograd marquaient les prémices de la révolution russe. En quelques jours, le prolétariat de la capitale, qui, en pleine guerre mondiale, s'était porté à l'assaut de l'autocratie tsariste, jetait à bas l'un des régimes les plus tyranniques d'Europe. Durant 8 mois, malgré le développement à un rythme inégal, dans les villes, les campagnes et sur les milliers de kilomètres de front où combattaient les soldats, malgré les périodes de stabilisation, de reflux, ce mouvement ne devait pas s'arrêter. Le journaliste, poète et écrivain américain, John Reed, est à Petrograd quand éclate la révolution d'octobre 1917. Le récit qu'il livre de ces journées historiques, véritable épopée des temps modernes, plonge dans la déferlante révolutionnaire soviétique qui va bouleverser le XXe siècle. La révolution en direct donc, son ébullition, sa fébrilité, la détermination des bolcheviks, les idéaux, les erreurs de jugement aussi, le tumulte, la parole libérée en des joutes oratoires sans fin. La violence larvée, puis finalement bien présente, même si elle est plutôt laissée à l'arrière-plan dans le récit. La force particulière de John Reed est de nous entraîner au cœur des événements. Le plaisir, la complicité entrent en jeu, résonnant avec l'humour et l'ironie de John Reed, rejoignant sa compréhension des événements. L'auteur fait œuvre de poète, en restant à l'écoute des aspirations humaines fondamentales, comme ses camarades russes sur l'aide pour les revendications des ouvriers et des paysans russes. La paix, la terre, le contrôle ouvrier, la liberté. Né à Portland en 1887, John Reed, rejeton de la bourgeoisie américaine, découvre les idées socialistes au cours de ses études à Harvard. Diplômé en 1910, il se tourne alors vers le journalisme et s'engage en faveur des mouvements ouvriers. Après avoir suivi Pancho Villa durant la révolution mexicaine, il se rend plusieurs fois en Europe et découvre la Russie en 1915. Farouchement opposé à la Première Guerre mondiale et au régime tsariste, il arrive à Petrograd avec son épouse Louise Bryant en septembre 1917 et assiste avec enthousiasme à la révolution d'octobre. Après avoir contribué à la naissance du Communist Labour Party aux États-Unis, il retourne en Russie fin 1919 pour participer aux activités de l'Internationale communiste. Victime du typhus en 1920 à l'âge de 32 ans, il est enterré sur la place rouge de Moscou dans la nécropole du mur du Kremlin, aux côtés des révolutionnaires de 1917 dont il avait décrit le combat. En 2017, Michel Sidorov réalisait une adaptation radiophonique de son ouvrage le plus célèbre, « 10 jours qui ébranlèrent le monde ». C'est ce feuilleton que nous proposons aux auditeurs de l'Égrégore, une série en 10 épisodes, pour se rappeler, en reprenant les mots de Paul Matic, que la révolution est une belle aventure. Épisode 9. Révolution contre révolution.
Soldats, j'ai à vous lire la proclamation du président du Conseil de la République, Kerensky. Nous, président du Conseil du gouvernement provisoire et chef suprême de toutes les armées de la République russe, informons que nous avons pris le commandement des troupes du front, restés fidèles à la patrie. Nous ordonnons à toutes les troupes du district militaire de Petrograd qui, par ignorance ou par égarement, se sont jointes à la bande de traîtres du pays et de la Révolution de revenir, sans tarder d'une heure, à leur devoir. À cette déclaration de notre chef suprême, j'ajoute cette information. Cette nuit, à Gatchina, nos régiments cosaques ont cerné des détachements de soldats et de matelots de Kronstadt. Ces hommes égarés ont livré leurs armes sans résistance et rallier les troupes gouvernementales. Le comité militaire révolutionnaire a donné l'ordre à ses troupes de battre en retraite. Bon sang, faites-le taire! Nul ne doit troubler une communication d'un officier à ses hommes.
Colonel, il y a la mâchoire emportée par un shrapnel, je voudrais vous y voir.
Soldat! Vous savez ce que peut vous coûter désormais tout acte d'insolence et d'insubordination.
Ce camarade aurait dû être transporté à l'arrière depuis hier.
Oui,
où est l'ambulance?
Ah ouais, ça c'est l'ambulance.
Oh, regardez, c'est moi, délicieux.
Je vous sens.
Colonel, ce ne sont pas des avions ennemis, vous n'avez rien à craindre.
Братья казаки, вас ведут на Петроград, вас хотят столкнуть с революционными солдатами и рабочими столицы. Не верьте ни одному слову наших общих врагов, помещиков и капиталистов.
Frère Козак, on veut vous mener contre Petrograd. On veut vous obliger à vous battre contre les ouvriers et les soldats révolutionnaires de la capitale. En vous racontant que Petrograd est les Cosaques, ne croyez pas un mot de ce que vous disent nos ennemis communs, les propriétaires terriens et les capitalistes.
Non !
Soldats, laissez immédiatement ces tracts et cette littérature de traîtres. Garde à vous !
Décret à земле.
Alors,
помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
Хорошо.
Второе.
Nous sommes presque tous paysans ici, camarades. Écoutez le décret sur la terre que Lénine a fait adopter par le comité militaire révolutionnaire et le congrès des soviets. 1. La grande propriété foncière est abolie immédiatement, sans aucune indemnité. 2. Les domaines des propriétaires fonciers, de même que toutes les terres des apanages, des couvents, de l'église, avec tous leurs cheptels morts ou vifs, leurs bâtiments et toutes leurs dépendances, passe à la disposition des comités agraires de canton et des soviets des députés paysans de district, jusqu'à ce que la question soit réglée par l'Assemblée constituante. Ouais.
Soldats, en rang, ou je tire.
Terminé. Vous êtes aux arrêts, colonel, et menacer de mort des soldats pourra vous coûter cher.
Lieutenant, à l'aide.
Désolé, colonel, je ne vous suivrai pas dans l'aventure avec Kerensky et les nouveaux Kornilov. Ma place est auprès de ces hommes.
Давай войну! Давай войну! Давай войну!
Je dois rétablir la vérité. Les marins de Kronstadt qui ont été cernés ne se sont pas ralliés aux généraux de Kerensky. Ils ont réussi à envoyer plusieurs d'entre eux à Smolny pour expliquer comment les choses se sont passées en réalité. Ils avaient tenté de discuter avec les Cosaques, voilà tout. Moi, je suis convaincu que les Cosaques vont finir par rejoindre la révolution. Mais je voudrais dire aussi qu'en tant que socialiste révolutionnaire, je désapprouve la manière dont les bolcheviks ont copié notre projet de redistribution des terres.
Mais quelle importance ! L'essentiel est que les terres soient redistribuées, que l'Église perde ses possessions. Je ne suis pas bolchevique, je suis anarchiste et maximaliste. Eh bien, je pense que nous devons nous incliner devant le parti qui, dès le premier jour, sans phrase, est capable de prendre une telle mesure.
Camarades, écoutez, c'est dans la Pravda, le nouveau journal du parti bolchevique. Liste des commissaires du nouveau gouvernement. Président du Conseil des commissaires du peuple, Vladimir Ulianov, Lénine. Agriculture, Miliutin. Guerre et marine, Antonov, Krilenko, Dibenko. Instruction publique, Lunacharsky. Assistance publique, Madame Alexandra Kollontai. Affaires étrangères, Liev Davidovich Wallstein. Trotsky. Poste et télégraphe, Liebov. Chargé des nationalités, Djougachvili, Staline. Chemin de fer, titulaire non encore désigné.
La vaste Russie était en état de dissolution. Le processus avait commencé en 1905. La révolution de février n'avait fait que le hâter. Elle avait bien esquissé une ébauche de l'ordre nouveau, mais n'avait su que perpétuer la creuse charpente de l'ancien régime. Cette charpente, les bolcheviks en une nuit l'avaient disloquée comme on dissipe en soufflant la fumée. La vieille Russie n'était plus. La société humaine était revenue à l'état de fusion primitif. Et sur la mouvante mer de flammes où se livrait âpre et sans pitié la lutte des classes, se formait, en un lent refroidissement, la croûte fragile des planètes nouvelles.
Louise, John, je m'inquiétais. Avec toutes ces fausses nouvelles, ces provocations, on ne sait pas si l'on devra aller chercher les amis au commissariat ou prévenir un détachement de gardes rouges pour les délivrer. Dépêchons-nous. Il y a un meeting du comité de salut dans la salle Alexandre à la Douma.
On sait qui doit prendre la parole ?
Non, rien n'est précisé. On ne sait d'ailleurs pas exactement de qui est composé ce comité. Il y a sûrement le vieux maire, Chaïber, et Skobeliev, le menchevique jusqu'au boutiste. Plusieurs organisations ont annoncé leur... Il y a par exemple le Centroflotte, l'état-major de la flotte qui est composé d'officiers tsaristes, l'ancien Tsik, les coopératives, le Vigel.
Les restes du gouvernement provisoire comptent beaucoup sur ce syndicat de cheminots, le Vigel. Mais la base ne s'est pas encore exprimée.
Pour l'heure, les dirigeants du Vigel affichent une grande hostilité envers le nouveau gouvernement. Ceux du syndicat des postes et télégraphes aussi.
On pourrait avoir facilement l'impression que le pouvoir issu du congrès des soviets est isolé. Tenez, regardez ces étudiants bien habillés qui portent des brassards blancs du comité de salut. Ils ont l'air bien fiers.
Monsieur Gomberg,
ils vont dissoudre la Douma. Le commissaire Bolchevik est en ce moment chez le maire.
Thank you.
C'est Skobeliev qui parle.
J'annonce aussi l'adhésion à notre comité de salut du comité central de l'armée, de l'Union paysanne, du Conseil de la République russe, de l'Association des commerçants et industriels.
Le Conseil de la République n'existe plus.
La République russe n'a d'ailleurs jamais existé.
Et l'Association des commerçants et industriels, voilà une organisation révolutionnaire.
Le pouvoir des soviets n'est pas un pouvoir démocratique, mais une dictature. Et non pas une dictature du prolétariat, mais une dictature contre le prolétariat. Le problème du jour n'est pas seulement de rendre inoffensif d'irresponsables démagogues, mais de combattre la contre-révolution. En province, certains généraux essaient de profiter des événements pour marcher sur Petrograd. C'est la preuve que nous devons établir une base solide de gouvernement démocratique. Autrement, les troubles de droite remplaceront les troubles de gauche. Jurons que la révolution sera sauvée ou que nous périrons.
Vous aurez noté qu'il n'y a pas un seul représentant du prolétariat dans la salle.
Martov prend la parole.
Il est définitivement dépassé, mais il me touche par sa sincérité.
Les désaccords des Mensheviks internationalistes avec les bolcheviks sont connus. Mais je pense que malgré leurs erreurs et leurs crimes, les bolcheviks forment un important parti politique que nous ne pouvons ignorer.
Je propose une interruption de séance pour permettre aux différents groupes de se concerter.
Vladimir, vous ici.
Bonjour.
Bonjour.
En tant que SR, je me souviens que vous aviez quitté la conférence démocratique avec les bolcheviks pour protester contre la formation d'un gouvernement de coalition avec la bourgeoisie. Et à présent, vous êtes là, dans ce regroupement d'à peu près tous qui recherchent l'appui de la bourgeoisie et des anciens tsaristes.
Oui. À ce moment-là, j'ai quitté le congrès avec mon parti. Mais ce n'était pas pour me soumettre maintenant à la tyrannie de ces brutes que j'ai risqué ma vie pendant 20 ans. Leurs méthodes sont intolérables. Mais ils ont compté sans les paysans. Quand les paysans commenceront à agir, leur existence ne sera plus qu'une question de minutes.
Mais agiront-ils, les paysans ? Le décret sur la terre ne leur donne-t-il pas satisfaction ?
Le décret sur la terre ? Mais c'est notre décret. Les bolcheviks ont copié intégralement le programme du Parti Socialiste Révolutionnaire. C'est d'une impudence.
Mais si c'est votre propre politique, je ne saisis pas vos objections. Si elle répond aux vœux des paysans eux-mêmes, pourquoi se dresserait-il contre elle ?
Vous ne comprenez pas ? Ne voyez-vous pas que les paysans vont se rendre compte immédiatement de la duperie et comprendre que ces usurpateurs ont volé le programme socialiste révolutionnaire ? Vous voyez que nous sommes la majorité ?
Oui, à cet endroit de la rue, en effet.
Le peuple est en marche.
Je ne vois que des gens bien mis, de ceux que l'on croise à l'opéra ou dans les restaurants chics. Mais ils sont très violents.
Le garde rouge a osé tirer sur quelqu'un. C'est une jeune fille.
Elle est blessée au bras. On l'emmène.
Vous voyez, ce sont des brutes épaisses, ignorantes, qui mettent la révolution en danger.
Ils l'ont tellement harcelée, provoquée.
J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je rentre me coucher.
Il a été maladroit, c'est vrai. Mais il y a longtemps qu'il n'a pas dormi. Lui. À la Douma municipale, les cadets et les mensheviks laissaient courir le bruit que la Douma allait être dissoute par les bolcheviks. On vota résolution sur résolution, en particulier un appel à la population de Petrograd pour l'exhorter à défendre la municipalité élue par elle. Le long de la perspective Nievski, à travers les ténèbres de la ville devenue déserte, une colonne de soldats rouges avançait en silence à la rencontre de Kerensky. Une furtive activité régnait au numéro 6 de la Fontanka, quartier général du Soviet des paysans, ainsi que dans un certain local d'un grand bâtiment de la Nievski et à l'école d'ingénieurs. À Smolny, Des bureaux du comité militaire révolutionnaire semblaient jaillir des éclairs, comme d'une dynamo travaillant à trop grande puissance.
John ?
Tu me rassures, Max. Ici, au moins, le téléphone n'est pas coupé. Ce n'est pas comme à Smolny.
J'imagine que tu n'essayais pas de les appeler. Tu bosses encore à cette heure-ci ?
Et si je veux être dans les temps, mon cher directeur du Liberator ?
Je t'appelle pour te prévenir. Les hommes des comités patriotiques sont entrés cette nuit chez l'imprimeur. Heureusement, tu n'avais pas encore terminé ton manuscrit, sinon il aurait disparu à l'heure où nous sommes.
Et il va falloir ruser et prévenir pas mal de camarades pour la protection.
Je t'appelle aussi pour te rappeler que demain matin, nous passons en procès, toi et moi, pour entreprise de sédition et de subversion dans l'armée avec Feu, notre revue Masses.
Je n'ai pas oublié.
John, essaie de te coucher maintenant. Tu dois être en forme pour le procès.
Entendu, Max. Tu peux compter sur moi.
Bonne nuit.
Comme nous descendions sur le parvis de la salle Saint-Nicolas, une troupe de cyclistes se fit entendre de loin.
Боже мой, да посмотрите вы на этих велосипедистов. Ой, и они вместе теперь с этими с большевиками. Фу, смотри, противно.
D'où venez-vous ?
Nous arrivons du front, 12e armée. Nous venons aider les soviets contre la satanée bourgeoisie.
Ce sont des gendarmes bolcheviques, des cosaques bolcheviques. Vous venez nous arrêter, dissoudre la Douma.
Oh, nous n'avons reçu aucun ordre de ce genre, camarades bourgeois. Mais si nous en recevions un, nous nous empresserions de vous arrêter.
La garnison fait volte-face.
Hein?
C'est le commencement de la fin pour les bolcheviks. Voulez-vous assister au renversement de la marée? Venez avec moi, c'est au manège Michel.
Les Bronéviks sont les troupes des automobiles blindées. C'est la clé de la situation. Celui qui les a en main est le maître de la ville.
Des commissaires du comité de salut et de la Douma sont allés les trouver. En ce moment, ils délibèrent.
Pour décider de quel côté ils vont se battre ?
Oh non, ce n'est pas la façon de s'y prendre. Jamais ils ne combattraient les bolcheviks. Ils voteront la neutralité, et alors les Junkers et les Cosaques...
C'est une manœuvre machiavélique.
C'est une chose horrible pour des Russes de tuer leurs frères russes. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre civile entre des soldats qui ont lutté côte à côte contre le tsar, qui ont vaincu l'ennemi étranger dans des combats que l'histoire n'oubliera pas. Qu'avons-nous à voir, nous autres soldats, dans ces querelles de partis politiques ? Je ne veux pas dire que le gouvernement provisoire soit un gouvernement démocratique, non. Nous ne voulons pas de coalition avec la bourgeoisie. Mais il faut un gouvernement de la démocratie unifié, sans quoi la Russie est perdue.
Camarades, je viens du front roumain pour vous dire, il faut la paix sur le champ. Quiconque nous donnera la paix, que ce soit les bolcheviks ou ce nouveau gouvernement, nous le suivrons. La paix. Nous ne pouvons pas combattre plus longtemps. Nous ne voulons combattre ni contre les Allemands, ni contre les Russes.
Mes amis, ne vous laissez pas tenter par le défaitisme. La guerre ne peut se terminer que par la victoire des alliés sur Guillaume II.
Vendjonov parle comme Kerensky.
Poussez-vous.
Camarades, le camarade Krylenko, nouveau commissaire à la guerre, est ici et désire nous parler.
Camarades soldats, je ne suis pas en état de vous parler. Je le regrette. Mais il y a 4 nuits que je n'ai pas dormi. Je suis un soldat. Je veux la paix. Le parti bolchevique a fait triompher la révolution des ouvriers et des soldats avec votre aide. Et celle de tous les braves camarades qui ont renversé le pouvoir de la bourgeoisie sanguinaire. Le parti bolchevique a promis d'offrir la paix à tous les peuples, et il l'a fait. Aujourd'hui même, on vous demande de rester neutre quand les Junkers et les bataillons de la mort, qui ne sont jamais neutres, nous fusillent dans les rues et ramènent à Petrograd Kerensky. Kaledine est en marche, venant du Don avec ses Cosaques. Kerensky arrive du front. Kornilov rassemble ses Teginsky pour renouveler la tentative de coup d'État du mois d'août. Tous ces Mensheviks et ces SR vous demandent d'empêcher la guerre civile. Mais comment se sont-ils maintenus au pouvoir jusqu'au 25 octobre, sinon par la guerre civile? Comment puis-je vous persuader? La question est simple. D'un côté, il y a Kerensky, Kaledine, Kornilov, les Mensheviks, les SR, les cadets, la Douma, les officiers. Ils nous disent que leurs intentions sont bonnes. De l'autre, il y a les ouvriers, les soldats et les matelots, les paysans pauvres. Le gouvernement est entre vos mains. C'est vous qui êtes les maîtres. La Grande Russie vous appartient. Allez-vous la livrer, camarades ?
Vendjonov lut une résolution proposant le rappel du représentant des bolcheviks au comité militaire révolutionnaire et la neutralité dans la guerre civile actuelle. Ceux qui étaient pour devaient passer à droite. Ceux qui étaient contre, à gauche. Un mouvement se fit, d'abord hésitant, puis de plus en plus rapide, vers la gauche. Près de nous, une centaine d'hommes perdus, abandonnés par le flot, firent demi-tour quand les hurrahs retentirent. Ils quittèrent le manège et, du même coup, la révolution. Qu'on se représente pareille lutte se déroulant dans toutes les casernes, les districts, sur tout le front, dans toute la Russie. Qu'on se représente enfin les mêmes scènes dans tous les locaux des syndicats, dans les usines, dans les villages, sur tous les bâtiments dispersés de la flotte. Qu'on imagine partout le pays des centaines de milliers de Russes, les regards fixés sur les orateurs, ouvriers, matelots, paysans, travaillant intensément à comprendre et à se décider, pensant de toutes leurs forces et prenant enfin si unanimement leurs décisions. Telle fut la révolution russe.
Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louise Bryant, Julien Barret, Albert Rhys-Williams, Guillaume Durieux, Krylenko, Philippe Weissert, Vladimir, Olivier Cruveillé, Martov, Igor de Savitch, Skobeliev, Bertrand Suarez-Pazos, Max Eastman, Laurent Lederer, Comberg, Michel Sidorov, Riazanov, et Yuri Zavalniuk, Fabio Godinho, Jean-Baptiste Artigas, Maxime Coudour, Clément Bayard, Pascal Henry, Clément Bernot, Daniel Ederich, Véronika Ovchinikova. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dalia, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.
Camarade Chatov, tapez donc ceci.
Épisode 10. Vers la victoire. Trotsky appelle à la résistance populaire dans la rue. Le peuple construit ses barricades. Les gardes rouges partent affronter les troupes de Kerensky.
L'ex-ministre Kerensky a essayé, par un télégramme mensonger envoyé à tous, de faire croire que les troupes révolutionnaires de Petrograd avaient mis bas les armes et s'étaient ralliés aux forces de l'ancien gouvernement du gouvernement des traîtres, et que le comité militaire
révolutionnaire
leur avait donné l'ordre de se replier. Les troupes d'un peuple libre ne se replient
ni ne se rendent.
Bonjour, messieurs.
Well, John. Tu vois, je suis en pleine mission.
Bienvenue, John.
Je ne savais pas que tu avais appris la technique télégraphiste.
Et moi non plus. En ce moment, tout le monde apprend un peu de tout. Il faut occuper les postes que les réfractaires et les saboteurs abandonnent.
Oui, j'ai vu ça à la Banque d'État. Des ouvriers et des soldats, enfin, ceux qui savent lire, penchés sur les livres de compte. Je crois qu'ils transpiraient plus que dans le pire travail de force.
Bien, reprenons. Le moral de nos troupes est excellent.
Excellent.
Le calme règne à Petrograd.
Petrograd.
Signé le chef de la défense de Petrograd, lieutenant-colonel Mouraviov.
Bonjour, camarade. Bill, pouvez-vous s'il vous plaît envoyer l'ordre que je vais vous dicter?
Oui, naturellement, camarade Antonov. Je suppose que si le commissaire à la guerre lui-même se déplace, c'est de la plus haute importance.
En effet, voici. À tous les soviets de quartier des députés ouvriers et à tous les comités d'usine. Ordre. Les bandes kornilovistes de Kerensky menacent les approches de la capitale. Tous les ordres nécessaires ont été donnés pour écraser sans pitié cette tentative contre-révolutionnaire dirigée contre le peuple et ses conquêtes. L'armée et les gardes rouges ont besoin de l'appui immédiat des ouvriers. Nous ordonnons aux soviets de quartier et aux comités d'usine d'envoyer le plus grand nombre possible d'ouvriers pour creuser des tranchées, élever des barricades et poser du fil barbelé. D'interrompre immédiatement, s'il le faut, le travail dans les usines. De rassembler tout le fil de fer simple ou barbelé disponible, ainsi que les outils nécessaires pour creuser des tranchées et élever des barricades. De se munir de toutes les armes disponibles. D'observer la plus stricte discipline et de se tenir prêt à soutenir par tous les moyens l'armée de la Révolution. Le président du Soviet de Petrograd, commissaire du peuple, Léon Trotsky. Le président du comité militaire révolutionnaire, Nikolaï Podvoïski. Camarade John Reed, puis-je vous suggérer un sujet de reportage intéressant? Notre activité présente m'y fait songer.
Je vous en prie.
Eh bien, rendez-vous donc aux centrales téléphoniques. Vous verrez, c'est un modèle d'organisation et une curiosité pour un écrivain.
Allô?
Алло?
Да, слушаю.
Сейчас.
Я вас слушаю. Минуточку. Да, конечно.
Передаю.
Нет. Отключаю.
Да, Борис, красную кнопочку.
Алло. Да вчера уже говорили об этом. Не нервничайте, дамочка, пожалуйста. Куда шлите?
Excusez-moi. Quand nous sommes arrivés pour demander aux téléphonistes de travailler pour le nouveau gouvernement, elles ont refusé, en se réclamant du comité de salut et en disant que jamais elles ne travailleraient pour des gens aussi grossiers que les bolcheviks. Elles étaient persuadées que les marins de Kronstadt les violeraient. Невероятно. Comme c'est drôle. Vous les auriez vus. Ils sont tellement timides. Подожди секундочку.
Не-не-не, это не там. Борешка, я тебе уже сказала красную кнопку.
Je suis désolée. Le commissaire au poste et télégraphe a proposé aux téléphonistes de doubler leur salaire. Parce qu'ils étaient vraiment exploités. Mais rien à faire. Alors nous avons dû prendre les choses en main. Non, как же. Ce n'est pas facile. Pour des marins qui sont plutôt habitués à envoyer des torpilles sur des bateaux ennemis ou à gratter la roue du pont.
Vous êtes la présidente du soviet de Kronstadt. Les marins n'ont pas voulu élire un homme ?
À coutume au tavarish. Cela leur convenait d'être représentés et dirigés par une femme.
Vos marins y arrivent quand même, je vois. Et Smolny n'est plus isolé, ni le gouvernement du conseil des commissaires du peuple. Ce sera plus difficile avec les chemins de fer.
Vous verrez. Là aussi, les saboteurs ont beau s'agiter. Les cheminots auront le dessus et les dirigeants mencheviks du syndicat seront débordés.
Espérons.
Pardon, mesdemoiselles. Pourquoi refusez-vous de travailler pour un gouvernement qui est l'émanation de la majorité du peuple ?
Nous sommes des téléphonistes, pas des ouvrières. Nous n'avons rien à voir avec les soviets.
L'appel de Trotsky a été entendu, pour le moins.
Regarde tous ces hommes, ces femmes, qui ne sont pas des soldats mais qui vont défendre Petrograd. Leur Petrograd.
Leur révolution. Le prolétariat révolutionnaire va offrir ses poitrines pour protéger la capitale de la République ouvrière et paysanne.
Ce soir ou demain, ce sera leur vanille. Il faut essayer de savoir ce qui se trame du côté de la Douma et du comité de salut.
Tu peux y aller seul. Moi, je m'occupe de la sécurité de Louise. Elle est à Smolny, mais elle est aussi intrépide que toi. D'ici à ce qu'elle aille enquêter chez les Junkers ou chez les commandos de la mort...
Ok, séparons-nous.
Mesdames et messieurs, les bolcheviks sont une barbarie absolue. Les Junkers, nos chers élèves officiers, ont été massacrés au palais d'hiver. Les femmes soldats ont été violées. Une jeune fille a été froidement exécutée devant la Douma.
Et vous oubliez l'assassinat du prince Toumanov. Oui.
Tiens, mesdames et messieurs les journalistes, vous avez été expulsé de Smolny, mais vous avez trouvé refuge ici, je vois.
Comment pouvez-vous ironiser sur ces atteintes à la liberté de la presse ?
Allons, allons. Vous savez bien que vous avez appelé à prendre les armes pour tuer les bolcheviks et dissoudre les soviets. J'étais hier soir à Tsarskoye Sielo. Avec ma compagne, nous avons interviewé les généraux du 2e fusilier. Ils sont neutres. Enfin, je me comprends. Ils sont pour Kerensky, mais ne bougeront pas pour la simple raison que la plupart de leurs soldats sont bolcheviks et ont rejoint Petrograd. Et même ceux qui sont pour Kerensky ne veulent pas se battre.
Je n'en crois pas un mot. Vous aurez mal compris le russe, voilà tout. Tsarskoye Selo est aux mains de Kerensky et les Cosaques se trouvent déjà à Pulkovo.
Figurez-vous qu'on est même en train d'élire un comité qui ira recevoir Kerensky à la gare demain matin.
Bonsoir, John. Ça se calme, on dirait. Je sais que nous n'avons pas les mêmes opinions. Je suis socialiste révolutionnaire et vous bolchevique, mais pour votre travail de journaliste, j'ai une information utile. Je sais où se cache le comité de salut. Vous voulez leur parler ? C'est au 86 de la perspective Nielski.
Vous pouvez rester.
bolcheviks nous fusilleraient s'ils nous trouvaient ici. Mon camarade a dû se déguiser en ouvrier. Nous ne pouvons vous donner nos noms. Mais sachez que nous sommes socialistes révolutionnaires. Nous sommes heureux de voir ici un journaliste américain.
Pourquoi publiez-vous de tels mensonges dans vos journaux ?
Oui, sans doute, mais que faire ? Vous admettrez bien que nous sommes obligés de créer un certain état d'esprit dans le peuple. C'est une aventure pure et simple de la part des bolcheviks. Ils n'ont pas d'intellectuels. Les ministères ne les aideront pas. Nous avons décidé de donner notre appui au plus fort de leurs adversaires, à savoir Kerensky, et de collaborer à la restauration de l'ordre.
Soit. Mais alors pourquoi vous alliez au cadet ?
La politique n'est pas une chose aisée pour nous autres Russes. Vous, Américains, vous êtes nés politiciens. Toute votre vie, vous avez connu la politique.
Petrograd, le 29 octobre, fut réveillé par la fusillade et l'ébranlement sourd du pas des troupes. L'hôtel militaire et l'agence télégraphique avaient été pris par d'importantes forces Junker, mais repris dans des combats sanglants. De curieuses ambulances faisaient la navette entre l'école militaire, quartier général des Junkers, et le central téléphonique que les Junkers avaient réussi à occuper.
Attention, l'hôtel va avoir été oublié. Camarade Marin, bonjour.
Pas eu cette chance avec toi. Tu as eu tort de le laisser libre. Il va raconter à la Douma que nous avons commis des atrocités.
Je vais vous aider à sortir les corps.
Il y a pas mal de militaires étrangers pour soutenir la contre-révolution.
Pendant que nous nous réunissons, camarades, le nouveau TSIK, Comité Central des Soviets d'Ouvriers et Soldats, travaille sans relâche à la réalisation des mesures révolutionnaires. J'ai ici, sur mon pupitre, les décrets instaurant la journée de 8 heures. Celui du projet d'un système d'éducation populaire élaboré par le camarade Lunacharsky.
Camarade, un télégramme de Moscou nous apprend que les affrontements entre nos troupes et les Junkers sont très violents. Le comité militaire révolutionnaire de Moscou et les soviets ont lancé l'assaut contre le Kremlin, qui est occupé par de nombreux Junkers. Les camarades de Moscou demandent des renforts.
C'est en cours d'organisation.
Je suis envoyé par les camarades des usines Poutilov. Nous avons arrêté le travail depuis 2 jours et nombre d'entre nous sont partis pour affronter Kerensky et ses Cosaques à Pulkovo. Les Cosaques ont finalement refusé de tirer sur nous parce que les Soviets leur ont promis de ne pas prendre leurs terres et de redistribuer celles des grands propriétaires Cosaques. Mais les divisions du général Krasnov se sont déchaînées. Nous avons de nombreux morts. Les ouvrières et les ouvriers ne sont pas des soldats. Nous n'avons pas tous appris à tirer.
Pour chaque révolutionnaire tué, nous tuerons 5 contre-révolutionnaires. Je pars immédiatement pour le front de Pulkovo.
Pendant toute une semaine, le comité militaire révolutionnaire de Petrograd avait expédié vers le sud-ouest train sur train, bondé de matelots et de gardes rouges. Les nouvelles de Moscou étaient alarmantes. Les bruits les plus horribles circulaient. Les morts se comptaient par milliers. La rue Tverskaya était en flammes. L'église Basile le Bienheureux n'était plus qu'une ruine fumante. La cathédrale Oupensky s'écroulait. Il y avait 2 jours que les bolcheviks étaient les maîtres de la ville. Mais, au lieu de diminuer, les racontars au sujet de leurs prétendues atrocités s'amplifiaient. Cela nous décida à nous rendre sur place.
Ont été durs ici.
J'ai appris que les troupes révolutionnaires avaient eu du mal à s'organiser. Les officiers les avaient lâchés. Ils avaient dû improviser une direction militaire. Et puis des dirigeants bolcheviks ont déclaré forfait, comme Nogin et Rykov, en pleine bataille.
Les gardes blancs tiraient sur tout ce qui bougeait avec leurs mitrailleuses. Ce sont des nobles ou des bourgeois qui ont toujours haï le peuple. Il y a eu beaucoup d'enfants massacrés dans les rues. Et nous, comme nous ne savions pas où étaient les chefs des gardes blancs, nous bombardions les immeubles de la rue Tverskaya, d'où les gardes blancs sont souvent issus. Nous bombardions leurs carnets de chèques. Les femmes sont en train de coudre les bannières et les drapeaux pour les funérailles des morts de la Révolution, avec le nom des victimes. Les pertes de notre armée rouge ont été lourdes.
Le camarade Noguin est appelé à la tribune.
Camarade ! Camarade ! Comme Lunatcharsky, je ne pouvais supporter la destruction de tant d'édifices que nos ancêtres avaient bâtis. Et cette guerre civile devenait atroce !
La parole au camarade Boukharine.
Noguin a quitté le conseil des commissaires du peuple. Il a déserté en pleine bataille. Sa punition sera la honte qu'il portera toute sa vie. J'annonce que la Douma municipale de Moscou, qui dirigeait les opérations militaires des gardes blancs, a été dissoute. Les journaux bourgeois qui appartiennent à des groupes financiers et qui ont soutenu les gardes blancs n'existent plus. On me transmet à l'instant un message du front de Poulkovo, près de Petrograd. Kerensky écrasé, en fuite. La tentative de la bourgeoisie d'isoler l'armée révolutionnaire et de la briser en se servant des Cosaques a échoué. La défaite de Kerensky est la confirmation du droit du peuple à une vie de paix et de liberté, à la terre, au pain et au pouvoir. Gloire éternelle à ceux qui sont tombés. Vive la Russie révolutionnaire, populaire et socialiste. Au nom du Conseil, le commissaire du peuple, Léon Trotsky.
Buvons au succès du livre de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde.
Monsieur Reed, je vous remercie de m'avoir permis de lire sur épreuve votre livre. Même si je ne partage pas votre point de vue, je dois reconnaître votre travail sur les faits historiques et le souffle qui parcourt votre livre.
Vous pouvez remercier aussi les camarades qui ont transporté secrètement le manuscrit d'une imprimerie à l'autre afin d'échapper aux commandos des ligues de patriotes américains. Ah. Et je vous recommande la lecture du livre de mon épouse, Louise Bryant, ici présente, « 6 mois rouges en Russie ». Vous y trouverez des portraits remarquables des grandes figures de la Révolution, comme Alexandra Kollontai et Lénine.
Messieurs les journalistes, voici un scoop pour vos publications. Vladimir Ulianov vient de nous envoyer la préface qu'il a rédigée pour le livre de John et que nous allons nous empresser d'ajouter. Je vous la lis. Après avoir lu avec un immense intérêt et la même attention jusqu'au bout le livre de John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde, je recommande du fond du cœur cette œuvre aux ouvriers de tous les pays. Je voudrais que ce livre soit répandu à des millions d'exemplaires et traduit dans toutes les langues. Car il donne un tableau exact et extraordinairement vivant d'événements qui ont une si grande importance pour comprendre ce qu'est la révolution prolétarienne, ce qu'est la dictature du prolétariat. Vladimir Ulianov, dit Lénine.
Pierre-Marie Baudouin, John Reed. Flora Brunier, Louise Bryant. Jérôme Quintard, Léon Trotsky. Julien Barret, Albert Rhys-Williams. Olivier Cruveillet, Martov. Pierre Val, Antonov. Yana Maizel, Madame Stahl. Bruno Alain, Kameniev. Bertrand Suarez-Pazos, Max Eastman. Laurent Lederer, Gomberg. Michel Sidorov, Riazanov. Et Sliman Yevsa, David Van de Westin, Jean-Marie Gallet, David Nathanson, Cécile Arnaud, Olivier Collinet, Christine Braconnier. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dalia, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Remerciements à Lisa Olasiregui et Charlotte Gross, à la Bourse du Travail de Paris et à la mairie du Kremlin-Bicêtre.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. C'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi.
Allez, c'était Régor chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastille, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Radio Primitive.